Mes frères et sœurs, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu d'abord dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, à partir du verset 1er. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Amen. On va tourner quelques pages pour en arriver à la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Troisième petit passage dans l'épître de Paul à Tite. Verset 5 du chapitre 1er. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qu'il ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen. Vous avez certainement constaté, mes chers frères et sœurs, que l'apôtre Paul en particulier, mais aussi c'est l'enseignement qui est contenu dans tout le Nouveau Testament, insiste pour que dans ce que l'on appelle la maison de Dieu, il y ait un certain ordre et que l'on sache comment il faut se tenir dans la maison du Seigneur. Et nous remarquons que chaque fois, l'apôtre Paul, dans ses différentes étapes de l'exercice de son ministère, a veillé pour établir dans les églises des hommes qui sont appelés anciens, diacres, et aussi des personnes qui ont une certaine responsabilité pour accomplir les différents services dans la maison du Seigneur. Nous remarquons que dans toutes les listes de qualifications que Paul a données pour les responsables de l'Église, il y a une première qualité indispensable qui revient presque chaque fois d'une manière assidue, et il dit qu'il faut que ces hommes qui exercent une responsabilité dans l'Église soient irréprochables. Vous trouvez cela dans l'Épître à Timothée et dans le texte que nous avons lu. Vous trouvez aussi cela dans l'Épître à Tite. Et il y a d'autres passages où ceci est remis toujours en valeur et placé comme une priorité. Évidemment, cela ne veut pas dire que ces personnes soient sans péché, parce que nous connaissons tous ce qui est écrit dans la première épître de Jean, au chapitre 1er et au verset 8. La Bible dit, par l'apôtre Jean, « Si quelqu'un dit être sans péché, c'est un menteur. » Donc, il est impossible que ce soit des êtres sans péché. Que veut dire donc ce terme « irréprochable » ? Ça veut dire qu'il ne fait pas l'objet d'accusations particulières, notamment de la part de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui observent ceux qui vivent dans l'Église. À plus forte raison aussi, les membres de l'Église doivent pouvoir rendre un excellent témoignage de quiconque veut s'engager pour assumer une responsabilité dans l'Église de Jésus-Christ. Je voudrais aussi souligner que les péchés qui ont caractérisé une certaine personne aujourd'hui engagée dans une responsabilité dans l'Église, mais qui étaient les péchés de son passé alors qu'il ne connaissait pas le Seigneur, ne doivent pas être prises en considération non plus. Car vous savez, comme moi, que l'apôtre Paul a été un grand pécheur. Il a été un criminel. Il s'est même opposé à l'œuvre de Dieu avec un acharnement qui est redoutable. Et quand il rend témoignage de sa propre vie, il dira lui-même qu'il était indigne, mais en même temps, Il fait part de la grâce admirable que Dieu a exercée à son égard, et il dit, quand il a plu à Dieu, eh bien, de manifester sa grâce en m'appelant à le servir. Il avait tout préparé dès le sein maternel, et au moment déterminé par lui, eh bien, l'appel a retenti, et il a pu être utilisé entre les mains du Seigneur avec l'efficacité que nous connaissons et que la Bible met en relief. À partir de ce moment-là, on peut constater dans la vie de Paul une intégrité qui est absolue. Et certainement qu'il a fait aussi quelques erreurs. Peut-être a-t-il à des moments manqué de certains discernements. Peut-être, mais en tous les cas, une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas lui reprocher de manquer d'intégrité. L'Église primitive exigeait que les dirigeants soient dans le domaine moral, à un niveau très élevé. Et cela ne peut pas être plus clair que ce que nous découvrons dans le livre des Actes des Apôtres, et particulièrement ici, au chapitre 6, dans lequel nous avons trouvé le texte que nous avons lu ensemble. Alors, que se passait-il à Jérusalem ? C'est bien que nous puissions ensemble nous placer dans le contexte. C'est la première église qui s'est fondée à Jérusalem, et très vite, il y a eu une multitude de personnes. Puisque le jour de la Pentecôte, comme chacun le sait, au moment où Pierre s'est levé pour présenter le message de l'Évangile, la Bible déclare que 3000 hommes se sont tournés vers le Seigneur ce jour-là. Je dis en passant qu'ils se trouvaient dans l'auditoire qui a entendu Pierre apporter le message de l'Évangile, des hommes, des personnes qui venaient d'ailleurs, mais qui avaient quand même la nationalité juive. Ils venaient d'Asie mineure, et c'est la raison pour laquelle on retrouve dans cette église deux catégories de personnes. La Bible dit, dans le chapitre que nous avons lu, qu'il y avait d'un côté les Hébreux et d'un autre côté les Hellénistes. Alors les Hébreux, c'est quoi ? C'était ceux qui étaient d'origine de Judée et puis qui parlaient l'araméen. Les Hellénistes, c'était aussi des enfants d'Israël, mais ils avaient été dans d'autres nations, dans d'autres pays, et ils avaient adopté la langue grecque et aussi la culture grecque. Alors, les sujets de conflit naissaient par des préjugés que nous pouvons retrouver encore à l'heure actuelle. Et ces préjugés, c'est quoi ? Les Hébreux, je dirais purs et durs, disaient ceux-là qui sont allés dans d'autres nations. Eh bien, ils ont été souillés par ces nations-là. Nous, nous sommes les purs. Et il y avait des tensions entre eux. Notez bien, quelque temps après la Pentecôte, il y a eu encore une autre prédication à la suite d'une certaine persécution, et la Bible nous dit que 5000 hommes se sont tournés vers le Seigneur. Je précise bien, 5000 hommes. Il n'est pas dit qu'il y a eu des femmes. Et certainement, il y en a eu. Ce qui veut dire que, d'un seul coup, cette Église est devenue tellement importante, tellement grande, que l'on peut compter qu'il y avait au moins 10 000 personnes, mais beaucoup de spécialistes pensent qu'il y avait peut-être même le double quand on compte les enfants et que l'on compte aussi les femmes. Et là, on comprend que les 12 apôtres qui avaient été choisis par le Seigneur se sentent dépassés. Et il y a eu une première controverse. La controverse est née entre ces deux groupes desquels je viens de vous parler. Et certains disaient, eh bien, nos femmes, nos enfants sont négligés. Et c'est les hellénistes qui parlaient comme ça, parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Il faut dire que, et vous le savez aussi bien que moi, cette église connaissait une ambiance de solidarité et d'amour exceptionnel. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait beaucoup de difficultés à vivre la foi à cette époque-là. Et beaucoup avaient été débarrassés de leurs biens. On leur avait imposé, d'ailleurs, la séparation de leurs biens. On leur avait confisqué leurs biens. Et ils vivaient tous ensemble. C'est étonnant ce que dit la parole de Dieu, notamment au début du livre des Actes des Apôtres. Ils avaient leurs biens qui étaient mis en commun. Pas une personne disait que ce qui lui appartenait n'était que pour elle. Tout était en commun et il y avait une joie immense. Et la Bible déclare d'ailleurs qu'ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Puis, évidemment, comme les douze ont fini par être dépassés, débordés par l'immensité du travail, parce qu'il fallait distribuer cette nourriture, et cette nourriture était confiée aux apôtres qui avaient pour mission de la distribuer. Mais quand le Seigneur les a appelés, il ne les a pas appelés pour ça. Il les a appelés à prêcher la parole, à se tenir devant Dieu, et c'est ce qu'ils vont souligner et mettre en relief. Quand le Seigneur les a appelés et choisis, d'ailleurs vous vous rappelez de ce verset de l'Écriture qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Et là, eh bien, se sentant dépassé parce qu'il n'était plus dans le cadre de ce que Dieu voulait, ce à quoi Dieu les avait appelés, alors ils ont ouvertement parlé à l'Église et a dit, nous ne pouvons pas continuer comme cela. Dieu nous demande de prier, Dieu nous demande de méditer la parole, Dieu nous demande de nous consacrer au ministère de la parole. Alors choisissez maintenant des hommes, et ils ont donné même le chiffre, ils ont dit, choisissez 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Je voudrais vous faire remarquer une chose. Le titre de ce chapitre, je ne sais pas si c'est le cas dans votre Bible, mais nous devons reconnaître que ce qui est donné comme titre, c'est les hommes qui l'ont fait. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a le texte par lui-même, mais ici, le titre du chapitre, c'est « Institution des diacres ». Alors, je voudrais que vous regardiez bien le texte et vous ne voyez pas une seule fois dans ce texte le terme de « diacre » apparaître. Pour quelle raison? Parce que l'Église était nouvelle et cela n'existait pas encore. De la même façon qu'il n'existait pas encore des anciens. C'est plus tard que cela a été établi et qu'on les a appelés évêques pour les anciens et diacres pour ceux qui avaient une responsabilité au sein de l'Église de Jésus-Christ. Mais là, on ne les appelle pas comme ça. Et ils sont simplement appelés à servir aux tables. Ils ont un travail particulier, mais il est vrai, d'ailleurs, que certains parmi eux ont dépassé le cadre du service aux tables. La preuve, c'est qu'un peu plus loin, nous le lisons, il y a Étienne, qui, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges, des grands miracles parmi le peuple. Et il a parlé de la part du Seigneur, il a apporté la parole de Dieu. Par ailleurs, nous savons que Philippe, plus tard aussi, a été appelé à apporter la parole de Dieu. Or, lorsque Paul parle des diacres et des anciens, il établit la différence entre les deux. Et il dit, les anciens, la seule différence qu'il y a avec les diacres, c'est qu'ils sont aptes à apporter la parole du Seigneur, un enseignement à l'Église, un enseignement aux frères et aux sœurs. Et c'est cela que nous voulons maintenant mettre en relief. La seule chose que je peux dire à partir du texte du livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, c'est que Dieu met en relief qu'il y a une grande nécessité d'une pluralité dans l'exercice des fonctions dans l'Église de Jésus-Christ. Ceux qui s'appuient trop souvent sur l'Ancien Testament pour user d'une certaine autorité, eh bien, sont dans l'erreur quand on voit ce que le Nouveau Testament souligne de la manière dont l'Église doit être dirigée et conduite. Dans quelques instants, nous allons voir des détails un peu plus importants. Mais quand je dis nécessité d'une pluralité, c'est parce que je ne vois pas dans l'Écriture, sauf dans un cas où justement la Bible le condamne, c'est dans l'Épître de Jean, où il y a un homme dont il est dit qu'il aime être le premier. Vous connaissez son nom, n'est-ce pas ? Son nom, c'est Diotrephe. Et la Bible dit que lui ne voulait pas recevoir les autres. Pourquoi ? Parce qu'il aimait être le premier. Quand je étudie la vie des apôtres, je me rends compte que le Seigneur toujours a utilisé des équipes. D'ailleurs, même quand il les a appelés au début, remarquez les différentes listes que nous trouvons dans les évangiles. Elles nous présentent trois groupes, chaque fois, de quatre personnes qui sont différentes. Et la première liste, elle met en relief justement un homme qui est un leader et qui s'appelle Pierre, mais vous trouvez avec lui, dans le premier groupe de la liste des disciples du Seigneur, Pierre, Jacques, Jean et André. Mais chaque fois qu'il faut prendre la parole, eh bien vous découvrez que c'est Pierre, comme leader, qui le fait. Mais ça ne le place pas au-dessus des autres. Il y a la deuxième liste, c'est Philippe, Barthélemy, Thomas et Matthieu. Et Philippe, vous le trouvez toujours cité en premier, parce qu'il y a différentes présentations de cette liste, et lui, il est toujours présenté en premier. Les trois autres, dans les autres listes, peuvent, comme cela, être différemment placés. Il y a le troisième groupe, Jacques, Thaddée, Jude, fils de Jacques, Simon et Judas Iscariot. Thaddée est aussi appelé Jude, fils de Jacques. Et là, encore une fois, chaque fois que la liste est présentée, vous trouvez Jacques en premier, les autres ensuite, et il y a en Jacques une personnalité particulière. Je veux dire par là quoi ? Eh bien que il y a toujours un groupe. J'ai essayé de voir dans les épîtres. Et dans les épîtres, je découvre le même principe. Paul n'est jamais tout seul. Il y a toujours une équipe avec lui. Des fois, c'est qu'un seul personnage, mais au moins, ils sont deux. Il y a Paul et Barnabas, il y a Paul et Silas. Paul et Silas, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, comme vous le savez bien, entre Paul et Barnabas, il y a eu une vive discussion au sujet de Jean-Marc, qui était là comme un collaborateur, mais qui à un moment donné a manqué de courage en face de certaines difficultés. Et quand tout à l'heure je vous disais que Paul peut-être, eh bien, a précipité certaines choses, je dis peut-être, il n'y a que Dieu seul qui est juge dans ce domaine. Alors, il n'a pas voulu de Jean-Marc, parce qu'il s'était découragé et lui devait avancer, continuer dans une mission qui était très importante, dangereuse. Et il se disait, si ce garçon n'est pas capable de faire face à cette situation maintenant, comment va-t-il réagir plus tard ? Mais notez une chose, Barnabas, qui était son collègue, c'était un membre de la famille de Jean-Marc. Et Barnabas, eh bien lui, il s'est dit, mais non, Dieu est capable quand même de lui faire faire des progrès. Choisissez entre les deux, Paul et Barnabas, qui avait raison. Une chose est certaine, c'est que la Bible nous apprend qu'un peu plus tard, effectivement, Paul, dans une situation particulière, a fait appel à Jean-Marc et il a dit qu'il vienne. Parce qu'il me sera utile, ce qui veut dire qu'il avait changé d'opinion, qui veut dire donc qu'il s'était rendu compte que finalement ce garçon avait fait des progrès, mais peut-être aussi, parce qu'il n'était plus dans la même situation, dans le même combat, et qu'à ce niveau-là, Jean-Marc pouvait lui être utile. Mais mon but, c'est de vous montrer, jamais Paul n'a été tout seul. Et si je devais prononcer le nom de tous les amis et de tous les collaborateurs qui sont mentionnés dans l'Écriture, on trouverait une liste tellement importante. Et quand Paul établit justement des églises, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Chaque fois, il dit que l'on établisse des anciens. Encore une fois, là, je vous fais observer une chose que vous pouvez chercher vous-même en fouillant l'Écriture. C'est que ce terme-là n'est pratiquement jamais utilisé au singulier, mais toujours utilisé au pluriel. Lorsque, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, il est question de Paul et de Barnabas, au chapitre 16, de Barnabas fera équipe avec Marc et Paul avec Silas. Après, il est dit au chapitre 18 que Paul retrouve à Antioche certains qui sont devenus des collaborateurs. Et quand il va dans cette direction-là, il va prendre avec lui Priscille et Aquilas. Et même Luc et Aristarque, nous est-il dit, ont fait le voyage avec lui jusqu'à Rome. Et dans d'autres passages, il est dit qu'il est allé jusque dans une certaine ville, notamment, précisément, à Jérusalem, quand il était de retour. Il devait rencontrer Jacques, qui était le personnage qui avait une certaine importance à ce moment-là. Mais il est dit que les anciens, au pluriel, vinrent également, et ils participèrent à cette réunion-là. À Éphèse, eh bien, Paul est arrivé et il a annoncé certaines choses qui n'étaient pas toujours très agréables à entendre. Il parlait même de son départ prochain et la Bible dit qu'à Éphèse sont arrivés les anciens de cette ville. Les anciens de cette ville. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que mes frères et sœurs, plus j'avance avec le Seigneur, et je n'ai plus beaucoup de courses à faire, mais plus j'avance avec le Seigneur, plus je reste convaincu qu'un leader d'église, entendez si vous voulez, un pasteur, ne doit pas être ni un dictateur, ni un autocrate, ni un individualiste responsable, individualiste. Parce que ce n'est pas possible de faire l'œuvre de Dieu quand on est dans cette mentalité-là d'un autocrate. Je connais malheureusement des hommes qui sont aujourd'hui au service de Dieu et qui parlent de cette manière. Et ils disent, mais nous sommes les canaux par lesquels Dieu dirige, montre aux autres. C'est vrai dans l'Ancien Testament que cela se manifestait d'une manière évidente. Mais voyez-vous, dans le Nouveau Testament, Dieu se révèle, pas seulement à un homme. À un homme, il peut lui donner une vision particulière, mais il se révélera en même temps à d'autres pour qu'ils soient comme une équipe qui soit forte en face de tout ce que l'ennemi peut susciter. Et je dirais qu'une collaboration de responsables dans une église est une absolue nécessité pour que le Seigneur puisse se manifester aussi avec une grande efficacité. Je dis cela parce que quand on travaille d'une manière pyramidale, au moment où il y a certains problèmes et que la pyramide se renverse, vous êtes bien placé pour savoir la chose, alors c'est la pointe de la pyramide qui prend tout. Mais quand il y a un travail collégial, alors il y a une responsabilité de chacun. Et nous sommes tous responsables au sein de l'Église de Jésus-Christ. Tous, nous avons quelque chose à faire de la part du Seigneur, en tenant compte quand même d'un certain point. Ceci vous a été rappelé très délicatement cette semaine, et c'est quand même une vérité que je veux souligner. Nous ne pouvons pas prendre une responsabilité dans un service quelconque, même au sein de l'Église, et c'est valable aussi pour moi, sans tenir compte de ce qui a pu être fait au préalable. Au préalable, il peut y avoir eu des grandes bêtises de fait, mais il y a certainement aussi des bonnes choses qui sont accomplies. Or, on ne part pas comme quelqu'un qui se dit « maintenant, c'est moi » et le reste, ça ne m'importe pas. Nous devons savoir que nous entrons dans le travail de quelqu'un et que nous devons être en communion avec le Seigneur pour ne pas faire les erreurs qui peut-être ont été commises au passé, mais en même temps pour ne pas oublier les choses bonnes qui doivent être continuées. Je voudrais m'expliquer. J'ai beaucoup souffert dans l'exercice du ministère dans les différentes églises. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que souvent, j'ai remarqué que dans certaines communautés, quelqu'un arrivait avec un ministère différent que le précédent. Il y a différents dons. La parole de Dieu dit qu'il y a différents ministères, comme différents services, différentes qualifications. Et celui qui arrivait, eh bien, disait, « Ah, maintenant, c'est moi. » Avant, c'était comme ça, maintenant, c'est moi. C'est différent. Écoutez, mes frères et sœurs, on prend là où on trouve pour aller plus loin, édifier, mais pas renverser ce qui a pu être établi et qui est bon. Ce qui est mauvais, on l'oublie, mais ce qui est bon, il faut en tenir compte. Est-ce que vous suivez bien ma pensée? Et des fois, eh bien, on ne tient pas compte de certains avertissements, de certaines choses qui ont pu être remarquées par quelques personnes engagées dans le service. Et ces personnes engagées dans le service, Eh bien, elles ont dû affronter des problèmes. Elles ont dû peut-être aussi être perplexes devant certaines situations et peut-être aussi commis quelques erreurs. Mais il y a eu des choses qui ont été faites. Et si on est dans une véritable collaboration, non pas avec un esprit individualiste, mais en travaillant pour le bien de la collectivité, pour la manifestation de la gloire de Dieu au sein de l'Église, alors à ce moment-là, il faut qu'il puisse y avoir une prise de conscience que nous avons besoin les uns des autres. Les uns des autres. Et dans cet esprit-là, Dieu peut honorer ce que nous faisons et il peut être glorifié au milieu de nous. C'est une chose à ne pas oublier, une chose qui est très, très importante. Je voudrais simplement vous dire, et j'insiste là-dessus, qu'il nous faut prendre en considération ces qualifications que le Seigneur réclame de la part des uns comme des autres, je dirais autant pour les diacres que pour les anciens. Et je voudrais simplement répéter en relisant certains points. Il faut que l'évêque soit irréprochable. J'ai déjà dit ce que cela peut signifier. Mari d'une seule femme, sobre, modérée, réglée dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement, ça ne veut pas dire non plus qu'il sera celui qui va prendre la place sur l'estrade. Il peut le faire. Et ça, c'est une chose qui est aussi le partage des anciens. Prêcher la parole, l'exhortation, l'édification à l'Église. Ce n'est pas seulement le rôle du pasteur, écoutez bien, qui lui aussi est un ancien comme les autres. Alors là, peut-être il y a quelque chose qui vient dans votre esprit. Mais alors, si c'est un ancien comme les autres, pourquoi a-t-il une place particulière? Bien, c'est pour cette raison que dans la liste ou la liste des apôtres et des disciples qui se trouvent dans l'Évangile, j'ai remarqué à chaque fois les différents groupes avec quelqu'un qui est toujours en tête. Mais celui qui est en tête n'est pas dans un esprit de supériorité. La preuve, c'est qu'une église que nous connaissons bien, que je ne vais pas dénoncer publiquement ici, qui est appelée l'église officielle, de la religion officielle de notre pays, en a profité pour dire « Ah, puisque Pierre est en tête, c'est le pape ». Mais non, ce n'est pas le pape. La preuve, c'est que même lui, qui était considéré en effet comme un leader, quand il s'est retrouvé dans une situation critique, eh bien, l'apôtre Paul, qui était, selon sa propre expression, l'avorton parmi les apôtres, le dernier, celui dont lui-même dit « Je ne suis pas digne de porter un tel titre », eh bien, l'avorton, il est allé confronter Pierre en face et lui a montré que dans sa manière de se comporter, en jouant à l'hypocrite, eh bien, il ne pouvait pas être agréable à Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs, que l'amour que l'on peut avoir dans notre cœur pour les frères et sœurs, ce n'est pas de la mièvrerie. On peut aimer vraiment profondément, et cela ne va pas nous empêcher de dire à quelqu'un dans lequel on voit quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ce qui doit être dit. L'amour dans la vérité dans l'amour. Je répète ce que j'ai déjà dit ici, l'amour sans la vérité, c'est de la mièvrerie, la vérité sans l'amour, c'est de la dureté, mais la vérité dans l'amour, c'est ce qui doit régner au sein de l'Église de Jésus-Christ. Parce que permettez-moi de vous dire, Si nous veillons les uns sur les autres de cette manière-là, et que nous sommes capables de nous exhorter mutuellement, vous savez, à partir de ce moment-là, nous allons empêcher le malin de faire l'œuvre que si souvent il a accomplie, parce qu'il n'y a rien de pire au sein de l'Église de Jésus-Christ que la duplicité. Or, vous savez, c'est une des remarques que Paul fait aussi en ce qui concerne les diacres. Il dit « éloignez de la duplicité ». C'est la même chose pour un évêque, c'est-à-dire pour un ancien. Réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, il faut qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison. Alors là, j'ai besoin quand même d'apporter quelque chose de particulier. Vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes en droit d'apporter à ceux qui sont dans notre maison l'exemple, l'enseignement et la formation que Dieu nous demande d'apporter. Mais écoutez bien, les enfants sont sous notre responsabilité jusqu'à un certain âge et arrivent à un moment donné où ils nous échappent. Quand un garçon ou une fille dans une famille me dit « Ah maintenant, moi je prends les ailes, je ne veux plus de ça », le papa ou la maman ne sont plus responsables de la décision qu'ils prennent. Mais tant qu'ils sont sur l'autorité, sous l'autorité paternelle, il doit y avoir l'exercice d'une certaine autorité spirituelle sur eux. Comprenez-moi bien, si un papa n'est pas capable de dominer son enfant et qu'il veuille ensuite être quelqu'un de responsable dans l'Église, comment va-t-il arriver ? Comment cela sera-t-il possible ? La Bible nous met en garde contre cela. S'il ne sait pas bien diriger sa maison, il ne saura pas non plus diriger l'Église. Or, je voudrais maintenant quand même ajouter ceci. Nous avons le rôle de tuteur tant que les enfants sont sous notre responsabilité. Mais celui qui fait la greffe, c'est pas nous, c'est Dieu. Et il n'y a que Dieu seul qui peut accomplir ce miracle. Si bien que ici, je voudrais dire à quelqu'un pour l'encourager, à un papa ou à une maman, peut-être ton fils ne marche pas encore avec le Seigneur, peut-être ta fille ne marche pas encore avec le Seigneur, peut-être même tu sens qu'il s'éloigne de plus en plus du Seigneur. Mais est-ce que tu as assumé ta responsabilité en lui montrant un bon témoignage, en lui montrant les valeurs spirituelles et ce que dit la Bible? Écoute, ce qui a été semé dans son cœur, je peux dire avec la parole de Dieu que Dieu est capable de faire lever cette semence. Ça demande parfois des années et des années. Mais notre responsabilité, c'est d'avoir une autorité. La maman a une autorité, le papa a une autorité, une maison, il y a un ordre. Il n'y a pas de différence dans le sens que l'un est supérieur à l'autre. Écoutez bien mes frères et sœurs. Même dans ce que l'on appelle la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Et Jésus est soumis au Père. Et il est dit que le Saint-Esprit fait tout pour glorifier le Fils. Mais en tous les cas, la réalité c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un, c'est Dieu. Il n'y a pas une hiérarchie, il y a une soumission qui ne fait pas de l'un quelqu'un de différent, sinon on aurait trois dieux, en aidant la maison, le père a une fonction, la maman aussi, et on est soumis l'un à l'autre. Vous allez dire, ah, ça c'est pas biblique. Dans la Bible, il est dit, femme, obéissez à votre mari. Oui, sauf que c'est juste précédé par soumettez-vous les uns aux autres. Mais ça, on l'oublie. Alors, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on doit être capable de pouvoir se dire les choses en toute honnêteté, en toute vérité, dans l'amour, non pas avec un esprit de supériorité, mais simplement pour vraiment, dans l'amour de Dieu, manifester les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Je voudrais m'expliquer au travers d'un exemple très simple, banal, que j'ai peut-être d'ailleurs cité ici. Vous voyez, mon épouse ici présente, elle conduit aussi bien que moi. Mais quand je l'entends à côté de moi, des fois, j'ai l'impression qu'elle doit conduire mieux que moi. Mais elle conduit la voiture. Sauf que pour venir ici, voyez-vous, je prends le volant. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle me dit, avec toute cette circulation, je préfère que ce soit toi qui prennes le volant. Imaginez, que tandis que l'on roule là, tranquillement, d'un seul coup, moi je me trompe, et qu'elle me dise, hey, tu vois bien que tu prends une mauvaise direction. Ça m'arrive souvent d'ailleurs. Tu as pris une mauvaise direction. Alors moi, si je prends cette autorité humaine, charnelle, à laquelle on pense si souvent, je vais lui dire, qui est le chef ici? C'est moi le chef de la maison. Alors là, j'agis comme un imbécile, vous êtes d'accord avec moi, hein? Mais je suis capable de lui dire aussi, ah, t'as raison. Je me suis trompé. Je vais rectifier. Je suis soumis à ma femme, là, non? Et vous ne croyez pas que c'est nécessaire dans la circonstance? Eh bien, maintenant, à contrario, imaginez qu'elle se rende compte que je me trompe, et comme elle est aigrie contre moi, ou je ne sais quoi, elle va dire, encore une fois, tu t'es trompé. Je ne vous dis pas le nom d'oiseau dont elle va me qualifier. Et puis, elle saute sur le volant et elle va donner un coup de volant. Vous vous rendez compte un petit peu de la catastrophe? Ça sera l'accident. Mais non, elle ne va pas faire cela. Elle a un autre langage. Ce n'est pas toujours un langage très gentil, hein, je vous le dis très ouvertement. Mais elle me remet en place des fois, il le faut. Et je suis bien obligé de l'admettre. Dans l'Église, les relations doivent être comme cela. Et ce n'est pas parce que quelqu'un, eh bien, exerce une certaine autorité spirituelle qu'il est au-dessus. Trouvez-moi dans l'Écriture un seul verset qui puisse mettre en évidence que dans l'Église, il existe une hiérarchie. Il est parlé de soumission à ceux qui apportent la parole de Dieu, mais jamais dans le sens que l'on reconnaisse en quelqu'un celui qui est au-dessus de tout. Parce que Dieu a donné différentes qualifications, différents dons, et c'est en fonction de ces dons que nous devons agir, nous soumettant les uns et les autres, pour que, eh bien, l'Église aille de l'avant, et que la gloire de Dieu soit manifestée. Il y a bien sûr d'autres détails, et vous avez remarqué qu'un ancien peut être rémunéré, et il est dit, non pas pour un gain sordide. Là aussi, il faut veiller. Tous les anciens ne sont pas rémunérés, mais il y en a qui le sont. Ce n'est pas pour autant qu'ils exercent une priorité dans, justement, l'autorité qui doit se manifester au sein de l'Église. Non, c'est un accord qui doit être trouvé et nous devons tout simplement avancer dans une parfaite harmonie en pensant bien à ces choses-là. Et les diacres, eux, nous trouvons exactement les mêmes choses qui sont soulignées, éloignées de la duplicité, éloignées des excès de vin, éloignées d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et il est ajouté ceci, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Ça, je voudrais m'arrêter un instant. Des fois, on dit, ben oui, mais lui, il n'est pas capable. Vous savez, nous, qui sommes-nous pour connaître le cœur de quelqu'un, les motivations de quelqu'un? Mais par contre, l'Église, et je le souligne ici, est la colonne et l'appui de la vérité. Et je sais que l'Église, elle peut avoir ce pouvoir de discerner ce qui est conforme à la volonté de Dieu et ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, dans le livre des Actes des Apôtres, vous avez remarqué que les apôtres ont dit à l'Église, choisissez. Mais il a fallu certainement les mettre à l'épreuve. Comment juger de la capacité de quelqu'un si on ne le voit pas agir? Parce que ce n'est pas un titre, c'est une fonction. Et malheureusement, beaucoup s'accrochent au titre, tout simplement parce qu'ils ont l'impression que le titre, ça leur donne un certain rang social, un certain pouvoir. Et c'est ça qu'il faut démolir, c'est ça qu'il faut détruire, parce qu'il n'y en a pas. Nous sommes tous directement dépendants de celui qui est le chef suprême, qui s'appelle Jésus. Il est la tête de l'Église. Et c'est à lui que nous devons être soumis. Mais bien entendu, à partir du moment où dans le cœur, il y a une aspiration, attention, l'aspiration, ce n'est pas forcément un désir qui vient comme ça, qui est de la chair, mais une aspiration qui est suscitée par le Saint-Esprit. Par exemple, tout à l'heure, notre frère qui a introduit ce moment de prière, nous étions quelques-uns, a dit, prions le Seigneur pour que Dieu puisse mettre dans le cœur de celui qui doit être le pasteur de cette Église, eh bien, le fardeau, une aspiration qui vient d'en haut. Comprenez bien, mes frères et sœurs, si nous le désignons, j'entends nous, le corps pastoral, dont je n'aime pas l'expression, parce que ça a été tellement utilisé dans le passé qu'on a fini par faire des castes, le clergé et les autres. Ça n'existe pas. Mais si les hommes désignent, eh bien, ça va pouvoir aller pendant un temps, mais si ce n'est pas envoyé par Dieu, ça sera un désastre. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, oui, il faut prier. D'abord, pour que Dieu mette dans le cœur des aspirations, le désir, la révélation même de ce que Dieu attend d'un tel personnage. Moi, je ne le connais pas, mais Dieu le connaît. Et je sais que Dieu a quelqu'un pour cette Église. Mais il faut prier pour ça. Et il ne faut pas seulement que ce soit une aspiration charnelle, vous savez. Je sais comment ça se passe. Pardonnez-moi, j'ai juste quelques minutes, mais je voudrais vous parler de certaines choses. J'ai été en contact avec un certain serviteur de Dieu qui, pendant longtemps, a cherché quelqu'un pour lui succéder. Il était dans un coin qui n'était pas la Côte d'Azur. C'était la France profonde, comme on l'appelle. Et il a pleuré, il a crié à Dieu. Il a fait venir des hommes. Et puis, les hommes se sont succédés. Et puis, chacun d'eux a dit, « Oh non, je ne viens pas ici. » Et il y en a un autre, c'est le dernier. Écoutez bien, c'est surprenant ça. Il lui a dit, est-ce que tu es prêt à venir me succéder? Savez-vous quelle a été la réponse? Il a dit, si j'écoutais Dieu, c'est ici que je devrais venir, mais je ne viendrai jamais. Il faut vous dire, c'était quelqu'un de la Côte d'Azur, vous voyez? Alors, entre la Côte d'Azur et la France profonde, il y a une différence. Mais quel était l'intérêt de cet homme alors? Qu'est-ce qu'il cherchait dans le service de Dieu? Si on a de telles priorités, on n'est pas digne du Seigneur. Vous comprenez pourquoi je vous parle de ça? Il faut prier pour que ce soient des hommes qui reçoivent de la part de Dieu la révélation de la place dans laquelle ils doivent être. Et qu'en même temps, parce que Dieu le fait en même temps, ils mettent dans l'Église la conviction que c'est vraiment lui. Et vous voyez, quand il y a cette harmonie-là, eh bien l'Esprit de Dieu alors peut couler à flot et des choses précieuses peuvent être accomplies. N'ayez pas voulu rentrer dans les détails de tout ce qui concerne le ministère de l'ancien ou du diacre. Après tout, c'est tellement clair dans la parole de Dieu qu'une lecture calme, sereine, avec une grande attention, permet de voir dans quel état d'esprit nous devons nous trouver. Mais je voulais placer ces choses devant vous pour que vous reconnaissiez, mes chers frères et sœurs, qu'il nous faut maintenant faire table rase de toute forme d'autocratie et mettre en place des hommes qui ont vraiment reçu de la part de Dieu quelque chose et l'Église doit pouvoir éprouver pour ensuite approuver. Alors, des choses vont être essayées, mais nous aurons la liberté de dire chacun pour notre propre part ce que nous ressentons afin qu'il y ait une cohésion et que la gloire de Dieu soit manifestée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en tous les cas, moi je suis d'accord avec moi. Alors que Dieu vous bénisse, on va prier avant de se séparer. Seigneur, nous te prions vraiment que ton esprit agisse dans nos cœurs et dans nos vies. Nous sommes si petits, si insignifiants. Il y a tellement de choses qui doivent être faites au sein de ton Église, au milieu de ton peuple. Il y a tellement de préjugés aussi qui peuvent nous séparer les uns des autres. Tellement de choses qui peuvent faire plus de mal que de bien. Nous te demandons, Seigneur, aide-nous à régler ces choses, chacun pour notre propre part dans notre vie. Attache nos regards à ta glorieuse personne. Anime-nous de tes sentiments. Communique-nous tes pensées. Et s'il te plaît, qu'ensemble, nous puissions voir clairement et nettement ce qu'est ta volonté. Je ne crois pas, Seigneur, que tu aies permis quoi que ce soit qui ne le soit pour notre bien. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire, en terminant ces moments, notre confiance est placée en toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite et que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que la réunion de jeunesse commencera donc ce samedi, à l'heure qui avait été annoncée. Et petit à petit, les choses vont commencer à se mettre en place. Que Dieu vous bénisse et vous raccompagne.